un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée. Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 15 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. L'armée nigérienne et la société chinoise WAPCO ont signé des accords pour la sécurisation des opérations et des installations pétrolières. L'armée soudanaise nie toute implication dans les attaques contre des civils, dont l'État central d'Al Jazeera. La capitale américaine Washington se prépare à l'investiture de Donald Trump avec des mesures de sécurité exceptionnelles. Et dans notre partie magazine en Afrique du Sud, une opération a débuté cette semaine pour tenter de secourir des centaines de mineurs clandestins coincés sous terre dans une mine d'or.
Nous avons été en contact avec le gouvernement alors qu'il n'y avait pas un seul mort. Mais ils ont entendu que les gens meurent avant d'intervenir. C'est un massacre qui a été commis.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'armée nigérienne et la société chinoise WAPCO ont signé mardi à Niamey des accords pour la sécurisation des opérations et des installations pétrolières, dont l'oléoduc géant transportant du brut vers le Bénin voisin est visé par une série d'attaques depuis l'année dernière. Les détails avec Dili Diko.
Les accords ont été signés lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère nigérien de la Défense, le général de brigade Sani Kaché et un représentant de WAPCO. Selon le ministère nigérien du pétrole, la Chine a récemment proposé une surveillance à l'aide de drones de l'oléoduc long de près de 2000 km qui achemine le brut d'Agadem dans le nord-est nigérien vers le port béninois de Semekpoji. L'oléoduc subit depuis l'année dernière des attaques dans les deux pays qu'il traverse. Le dernier sabotage a eu lieu samedi au Niger, dans les environs de Mounsteka, Tawa, par des assaillants qui se sont repliés vers le sud en direction du Nigeria, selon l'armée nigérienne. Début décembre, au Bénin, trois soldats chargés de la surveillance de l'ouvrage ont été tués à Malanville, au nord, par des hommes armés. Ce pétrole est essentiel pour les économies du Niger et du Bénin qui entretiennent des relations tendues. Les deux pays travaillent avec la China National Petroleum Corporation, une société pétrolière appartenant à l'État chinois, dont WAPCO est une filiale. La Chine extrait l'or noir du Niger depuis 2011.
Au Mozambique, le chef de l'opposition Venancio Mondlane a affirmé ce mardi que ses partisans allaient paralyser le pays pour s'opposer aux résultats des élections d'octobre à la veille de l'investiture du président élu. Depuis octobre, les violences post-électorales ont fait quelque 300 morts selon une ONG mozambicaine. Rentré jeudi d'un exil de 2 mois et demi, Venancio Mondlane a appelé lundi à 3 jours de manifestation jusqu'à mredi. Le candidat du parti Frelimo au pouvoir, Daniel Chapo, 48 ans, doit prêter serment aujourd'hui, mercredi. Il succède à Philippe Nyusi. En Tunisie, des dizaines de manifestants se sont rassemblés mardi dans la capitale Tunis pour réclamer la libération de figures de l'opposition au président Kais Saied au 14e anniversaire de la révolution de 2011 et de la chute du président Ben Ali. À l'appel du FSN, Front de Salut National, principale coalition de l'opposition, les manifestants ont exprimé leur colère face à la répression des opposants, brandissant des portraits d'opposants en détention. Selon Human Rights Watch, plus de 170 personnes sont en détention pour des motifs politiques ou pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, pour certains en attente d'un jugement depuis 2022. L'armée soudanaise a nié mardi toute implication dans les attaques contre des civils dans l'État central d'Al Jazeera après que des groupes de défense des droits humains l'ont accusé, ainsi que des milices alliées, d'avoir tué 13 personnes, dont 2 enfants. Les précisions de John Lyndon.
Les avocats d'urgence qui documentent les violations des droits humains depuis le début de la guerre il y a 20 mois entre l'armée et des forces paramilitaires rivales ont déclaré que les attaques à Umm al-Ghura dans l'est d'Al Jazeera ont commencé la semaine dernière alors que l'armée avançait dans l'État. Samedi, l'armée a repris la capitale de l'État, Wad Madani, repoussant les forces de soutien rapide qui dominaient Al Jazeera depuis décembre 2023. Le groupe d'avocats a accusé lundi l'armée et les milices alliées de détenir un certain nombre de civils, y compris des femmes, dans ce qu'ils décrivent comme des campagnes ciblant des communautés ethniques et régionales, accusées de collaborer avec les forces de soutien rapide. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, a qualifié mardi ces attaques d'épouvantables. L'armée, qui attribue ces attaques à des violations individuelles, a promis de traduire les responsables en justice.
Au Mali, le gouvernement a commencé à saisir les stocks d'or sur le site de Lolo Gongoto, exploité par le groupe canadien Barrick Gold dans l'ouest du pays. L'industriel et l'État malien se livrent depuis des mois un bras de fer autour de ce qui est l'un des plus importants complexes aurifères au monde. C'est ce qu'indique Barrick Gold dans une communication interne destinée aux personnels locaux et consultée par l'AFP. Une opération visant les activités de mines illégales au Burkina Faso, en Gambie, Guinée et au Sénégal a permis l'arrestation de 200 personnes entre juillet et octobre 2024, a annoncé Interpol ce mardi dans un communiqué. L'opération Sanou visait principalement des mines d'or illégales, mais elle s'est aussi intéressée à l'extraction illégale de sable en Gambie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La capitale américaine, Washington, se prépare à l'investiture de Donald Trump avec des mesures de sécurité exceptionnelles, incluant 48 kilomètres de barricades et 25 000 agents des forces de l'ordre. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Cette investiture intervient après une campagne présidentielle marquée par des violences et notamment deux tentatives d'assassinat contre Donald Trump ainsi que des récentes attaques meurtrières. Un vétéran de l'armée américaine a fauché des dizaines de personnes au volant d'un pick-up à la Nouvelle-Orléans dans la nuit de la Saint-Sylvestre, faisant 15 morts dont l'assaillant. Le 1er janvier, un soldat est mort après avoir fait exploser un véhicule Cybertruck du constructeur automobile Tesla devant l'hôtel Trump de Las Vegas, blessant au moins 7 personnes. Le FBI et le département de la sécurité intérieure ont averti du risque d'attaques similaires à celles de la Nouvelle-Orléans. Les autorités restent sur leur garde face aux loups solitaires et aux menaces potentielles. Les hôtels sont presque tous réservés et des milliers de manifestants sont attendus. Les autorités se disent prêtes à gérer la situation.
L'audition hier mardi au Sénat américain de Pete Hegseth, choisi par Donald Trump pour diriger le Pentagone, s'est transformée en joute verbale tendue entre cet ancien militaire et les élus démocrates qui ont fustigé des déclarations controversées et une accusation d'agression sexuelle. Le point avec Eric Manilakis.
Pete Hegseth, ex-major et présentateur de Fox News de 44 ans, a ouvert le bal pour les ministres choisis par Donald Trump en passant sur le grill de la Commission des Forces armées. Sa mission principale, a-t-il déclaré aux sénateurs, sera de ramener la culture du guerrier au Pentagone. Il veut notamment limoger certains généraux et interdire de nouveau personnes transgenres de s'enrôler sous les drapeaux. Donald Trump, comme moi, veut un Pentagone concentré à fond sur le combat, la létalité, la méritocratie, les principes et la préparation, a-t-il assuré devant la commission. L'ancien militaire a vite subi un tir nourri de la part des sénateurs démocrates. « Monsieur Hegseth, vous n'êtes pas qualifié pour devenir ministre de la Défense », a lancé la sénatrice Tammy Duckworth. Les élus démocrates se sont concentrés durant l'audition sur son opposition affichée à la présence de femmes dans les troupes combattantes. Pete Hegseth s'est défendu en affirmant respecter chaque femme militaire qui a endossé l'uniforme. Après Pete Hegseth, les auditions continueront au Sénat dans les jours et semaines à venir.
Toujours aux États-Unis, Marco Rubio, choisi par Donald Trump comme prochain chef de la diplomatie américaine, passe mercredi son grand oral au Sénat en vue de la confirmation de sa nomination. Le président iranien Massoud Pezeshkian a mis en garde Donald Trump sur le risque d'une guerre contre la République islamique, réaffirmant que l'Iran ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire. Dans un entretien mardi à une télévision américaine, les tensions autour du nucléaire civil iranien, les grandes puissances soupçonnant depuis deux décennies, Téhéran d'avoir des objectifs militaires n'ont fait que se raviver depuis que le président Trump, en 2018, s'était retiré d'un accord international de 2015. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été arrêté mercredi à l'issue d'un nouvel assaut sur sa résidence. Des enquêteurs qui veulent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Une mesure sans précédent dans le pays en proie à une grave crise politique. Suspendu par les députés et visé par une enquête pour rébellion, le dirigeant conservateur avait jusqu'à présent toujours refusé de s'expliquer depuis son coup de force poussant les procureurs à recourir à des mandats d'arrêt en vue de le placer en garde à vue. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
La Banque mondiale a suspendu ses versements au Gabon en raison d'arriérés de dettes de 27 millions de dollars. Cette suspension résulte de divers facteurs, dont une mobilisation insuffisante de ressources sur le marché international. Libreville a dit prendre des mesures pour régler ses arriérés rapidement. En Afrique du Sud, un puits d'or désaffecté est devenu une nécropole de mineurs clandestins, alors que 36 dépouilles ont été extraites après deux jours d'une tardive opération de secours mardi. Les opérations de secours doivent durer au total 10 jours. Faute de communication avec cet enfer souterrain, chaque aller-retour de la cage d'acier dans la profondeur du puits charrie avec elle autant d'espoir que de crainte. Le traditionnel déjeuner des Oscars, initialement prévu à Beverly Hills le 10 février, a été annulé en raison des incendies de Los Angeles. Dans l'industrie du cinéma, plusieurs événements ont été annulés ou reportés alors que la saison des prix vient tout juste de débuter. Les nominations seront annoncées en ligne le 23 janvier par l'Académie des arts et des sciences du cinéma qui décerne les précieuses statuettes.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
La CAF remporte le championnat d'Afrique des Nations à août prochain.
Oui, le CHAN Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 était prévu du 1er au 28 février de cette année. Mais sur son site, la CAF a annoncé le report du championnat d'Afrique des Nations à août 2025. L'instance dirigeante du foot africain soutient que des progrès significatifs ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, avec la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations. Cependant, ces experts ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN. La CAF va procéder aujourd'hui au tirage au sort du tournoi à Nairobi.
Rigobert Song, nommé sélectionneur de l'équipe de Centrafrique.
L'ancien sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de Centrafrique par un arrêté du ministre centrafricain des Sports. Rigobert Song, ancien capitaine emblématique du Cameroun, est nommé sélectionneur manager de l'équipe nationale de la République centrafricaine, rapporte un arrêté signé par le ministre des Sports, Rodolphe Héritier Bonheur, Doneng Wazoumon. Dans un communiqué publié hier mardi, la Fédération centrafricaine de football dit n'avoir pas été consultée ni associée au choix du nouvel entraîneur. Elle dit qu'elle avait décidé de nationaliser le poste de sélectionneur des Fauves. L'intérim était assuré par un staff entièrement centrafricain et dirigé par Eloge Anzayamissi, ancien capitaine des Fauves. Le contrat de Rigobert Song n'avait pas été renouvelé par la Fédération camerounaise de football après la prestation décevante de la sélection lors de la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Les Lions Indomptables ont été éliminés dès les huitièmes de finale par le Nigeria 2-0. En 23 matchs à la tête des Lions Indomptables, le double champion d'Afrique en tant que joueur 2000 et 2002 n'a remporté que 6 rencontres pour 9 défaites et 8 nuls.
Et puis Mikel Arteta pointe les conséquences terribles du harcèlement en ligne.
L'entraîneur d'Arsenal l'a affirmé en réaction aux attaques ayant visé l'attaquant Kai Havertz et sa compagne. L'international allemand a raté plusieurs occasions franches puis manqué son tir au but durant le match perdu contre Manchester United dimanche en Coupe d'Angleterre. Sa femme Sophia Havertz, enceinte, a partagé des captures d'écran sur les réseaux sociaux montrant des messages haineux, notamment l'un lui souhaitant de faire une fausse couche. Le club a signalé les messages à la police et travaille avec une société spécialisée dans le data pour tenter d'identifier les coupables. Nous devons vraiment faire quelque chose à ce sujet parce que le fait d'accepter cela, de le cacher, a des conséquences terribles, a réagi Mikel Arteta. L'entraîneur a pointé du doigt des comportements cyniques en même temps que l'hypocrisie de certains supporters, capables de fêter l'attaquant un jour, puis de l'insulter le lendemain.
Merci Yakuba. De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Afrique du Sud, une opération a débuté cette semaine pour tenter de secourir des centaines de mineurs clandestins coincés sous terre dans une mine d'or désaffectée à Stilfontein, à environ 150 km au sud-ouest de Johannesburg. C'est la justice qui a ordonné au gouvernement sud-africain d'organiser cette opération de sauvetage, alors que les morts se compteraient par dizaines après que les autorités ont coupé les voies de ravitaillement en vivres des mineurs au mois de novembre dernier. Les détails avec Patricia Huron.
Émaciés, les vêtements sales et déchirés, pieds nus ou flottant dans des bottes de caoutchouc trop grandes, les mineurs clandestins refont surface par petits groupes. Puis la cage, suspendue au bout d'un câble et actionnée par un treuil, replonge dans le puits à 2 km de profondeur. Une opération de sauvetage ordonnée par un tribunal sud-africain qui arrive trop tard, selon Mzukizi Jam, porte-parole de SANCO, une organisation de la société civile.
We started communicating with the government when there was not even a single fatality.
Nous avons été en contact avec le gouvernement alors qu'il n'y avait pas un seul mort. Mais ils ont entendu que les gens meurent avant d'intervenir. C'est un massacre qui a été commis. Et puis ils ont dit que l'opération coûterait trop cher, qu'ils n'avaient pas d'argent, alors que la situation sous terre est tellement terrible que certains ont consommé de la chair humaine.
L'an dernier, parce que les mineurs étaient entrés illégalement dans le puits de Stilfontein, les autorités ont adopté une ligne dure, leur bloquant l'approvisionnement en vivres afin de les forcer à sortir et pouvoir les arrêter. Deux mois plus tard, la situation s'est dégradée de manière dramatique. Devant la mine, dont l'accès est toujours bloqué par les forces de l'ordre, quelques dizaines de manifestants sont présents. En visite ce mardi à Stilfontein, le ministre des Ressources minières, Gwede Mantashe, a répété que le gouvernement serait ferme avec les mineurs clandestins.
Si quelque chose doit changer par rapport aux mineurs illégaux, c'est que nous devons intensifier la lutte contre cette activité. C'est un crime, une attaque contre l'économie. Si quelqu'un prend un risque volontairement, qu'est-ce que cela a à voir avec les droits humains ? Ce sont des mines illégales, ce n'est pas différent d'un braquage.
Mais pour les proches des mineurs, il s'agit avant tout de sauver des vies humaines, déplore Zinzi Tom, dont le frère figure parmi les orpailleurs toujours coincés sous terre.
Nous avons supplié le gouvernement, s'il vous plaît, aidez-nous. Mais leur position a toujours été de dire que ce sont des criminels, mais ils ont le droit de vivre. Le gouvernement se soucie seulement de nous quand on veut nos votes. Ils disent que nous vivons dans un pays libre, mais ce n'est que quand ça les arrange.
Depuis ce lundi, environ 120 survivants et 36 corps ont été remontés à la surface. Il serait encore plusieurs centaines sous terre. À Stilfontein, Patricia Huon pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Éthiopie, de fréquents tremblements de terre secouent les régions rurales Afar et Oromia depuis plusieurs semaines. Les autorités disent craindre la rupture d'un barrage et l'éruption d'un volcan, le mont Dofan. Elles ont alors procédé à l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui luttent pour survivre alors que les agences d'aide tentent de les soutenir. Yakuba Ouedraogo.
Des rangées d'abris de fortune parsèment le paysage de la région Afar, où des milliers de personnes ont été déplacées suite à des récents tremblements de terre qui ont détruit maisons et routes. Des familles entières se débattent maintenant après avoir fui leur domicile. La plupart des personnes déplacées qui arrivent dans ce camp près d'Awash Arba sont des pastoralistes qui ont dû laisser derrière eux leur bétail. Moussa Akele travaillait, lui, à l'usine de sucre de Kabana, à environ 250 km d'Addis Abeba, lorsque la terre a tremblé fin décembre.
Nous avons été chassés de notre vie agréable et paisible. Notre situation actuelle est très difficile. Nous n'avons plus la même nourriture qu'avant. Nous sommes en mode survie.
Lorsqu'elle a dû évacuer sa maison, Asea Ali, une femme de 26 ans, mère de deux enfants, n'a rien pu emporter avec elle.
Je n'ai pas pris d'affaires chez moi. Je suis partie avec ma mère âgée et mes enfants. Nous n'avons pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. Il s'agissait d'une catastrophe naturelle et nous avons fui pour sauver nos vies.
Comme plusieurs milliers d'autres personnes, Moussa et Asea vivent sous des tentes plantées au milieu d'une végétation aride. Des camions chargés d'eau et de nourriture arrivent ponctuellement dans ce camp.
Ils nous fournissent de la nourriture, mais il y a beaucoup de monde et ce n'est pas suffisant. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un terrain poussiéreux. Nous avons des enfants avec nous et nous sommes également confrontés à une pénurie d'eau.
Un centre de santé a été érigé dans le camp par les autorités locales. Plusieurs femmes se pressent dès l'ouverture, notamment pour peser leurs enfants en bas âge. Aboukar Hassan, chargé de la réponse sanitaire, estime recevoir chaque jour entre 200 et 300 personnes. Pour lui, la principale préoccupation est d'éviter la propagation du choléra.
En attendant que le gouvernement et les agences de soutien comme l'UNICEF et l'OMS interviennent, nous aidons la population avec les ressources dont nous disposons. Nous sommes sur le terrain, nous logeons et dormons aux côtés de la population.
Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, les autorités éthiopiennes ont évacué plus de 60 000 personnes vivant dans des zones à risque, dont certaines à proximité d'un barrage qui pourrait rompre, selon les autorités. Ces personnes déplacées continuent d'affluer vers l'abri temporaire d'Awash Arba avec leurs effets.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La Sierra Leone a déclaré lundi l'urgence sanitaire permettant de mobiliser les ressources nécessaires contre le Mpox et a annoncé renforcer la surveillance à ses frontières après la confirmation de deux cas. Le ministre de la Santé, Austin Demby, a assuré que le système sierra-léonais était prêt à répondre à de potentiels développements. Pour une analyse, John Lindon a joint le docteur Pierre Pellé, épidémiologiste, ancien représentant de l'OMS et ancien directeur régional d'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, actuellement basé à Brazzaville au Congo. Il nous explique tout d'abord ce qu'une telle déclaration signifie et quelles sont les mesures qui l'accompagnent.
Cela veut dire qu'il y a une épidémie de Mpox dans le pays, mais aussi il faut pour mettre les choses au niveau de ce pays, on pourrait dire qu'on n'est qu'au début de l'épidémie, parce que le pays où la situation est la plus préoccupante, c'est la République démocratique du Congo, où on a déjà dépassé les 15 000 cas. Donc, dans le cas de la Sierra Leone, il s'agit de répondre à une épidémie d'un virus qui est connu, qui se transmet d'abord de l'animal à l'homme et puis d'un être humain à un autre. Et donc, par contact indirect ou par contact direct avec les lésions cutanées. Donc, on connaît très bien les modalités de transmission et donc il s'agit pour le système de santé publique, le ministère de la Santé de la Sierra Leone, de mettre en place le dispositif de réponse, de riposte à une épidémie telle que le virus monkeypox.
Mpox, donc, est une maladie virale potentiellement mortelle. Comment reconnaître les premiers signes de cette maladie et comment éviter la maladie?
Pour éviter la maladie, on connaît les canaux de transmission, on connaît la transmission du virus, en ce moment-là, on facilite la communication au niveau de la population pour éviter la transmission. Comme je l'ai dit, le virus se transmet soit par contact direct, donc la transmission d'un individu à un autre à travers des lésions cutanées ou des muqueuses d'une personne qui est donc infectée, ou par des gouttelettes de salive à travers un éternuement ou de postillon. Ça, c'est la voie de de transmission par contact direct. Donc cela veut dire qu'il faudrait éviter ce contact direct, se protéger, se laver les mains, mettre des masques, un peu comme de la COVID-19. Et puis il y a la transmission qui peut aussi s'effectuer par contact indirect avec l'environnement du malade, la literie, les vêtements, la vaisselle, quand c'est manipulé à main nue, et puis voilà. Mais également, ce qui a été très bien décrit, c'est que le virus n'est pas considéré comme une infection sexuellement transmissible parce que simplement par le contact déjà, au cours d'un rapport, la transpiration, enfin tout ce qui se passe, c'est un contact direct et en ce moment-là, on informe la population pour éviter lorsque on a une épidémie qui est en place dans un pays. Il y a beaucoup de communication, une communication en situation de crise, mais une communication maîtrisée pour éviter des situations de panique où la peur aggrave en général la situation et donc voilà, il faut maîtriser cette communication.
Alors, et pour ce qui est des signes, lorsqu'on est déjà malade, comment ça commence, comment on se sent?
Ben, écoutez, la grande caractéristique du virus, de l'infection à virus monkeypox, c'est l'apparition de pustules sur la peau, notamment sur les membres supérieurs et également au visage, et avec de la fièvre, avec un syndrome grippal qui peut être plus ou moins important. Mais c'est surtout ces lésions-là qui caractérisent le mpox.
Le docteur Pierre Mpele, épidémiologiste, ancien représentant de l'OMS et ancien directeur régional d'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, actuellement basé à Brazzaville au Congo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Une opération de secours d'envergure est en cours à Los Angeles pour aider les dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison ou qui ont été évacuées des zones touchées par les incendies qui font rage dans la région depuis la semaine dernière. Le reportage de Ginia Dulot depuis le Pasadena Convention Center, transformé en centre d'hébergement d'urgence pour les personnes évacuées. Récit Michel Joseph.
Danielle Williams, habitante d'Altadena, dit avoir tout perdu dans l'incendie d'Eaton, à l'exception des vêtements qu'elle portait et de ses chats. L'appartement de sa sœur a disparu. La maison de son père est peut-être encore debout, ils n'en savent rien.
Toute l'arrière-cour a pris feu, ils luttent encore contre de nombreux incendies là-haut. Il y a les unités spéciales, il y a les policiers. Malheureusement, son quartier est le théâtre de nombreux pillages, ce qui est un autre sujet de préoccupation.
Tous ceux qui font la queue ont perdu leur maison. Ils attendent une petite aide financière de la California Fire Foundation, une organisation à but non lucratif. Hank Donovan, 19 ans, dit que tout son quartier a brûlé.
J'ai grandi là depuis l'âge de 7 ans avec un groupe de 6 ou 7 garçons. Nous avions tous à peu près le même âge. Nous nous considérons tous comme une famille. Et le fait de voir tout le quartier où nous avons grandi, jouer, se retrouver, le lycée ne nous a pas séparés, l'université ne nous a pas séparés. Il semblait que le feu soit la seule chose qui puisse disperser le quartier.
Les pompiers ont aidé Josh Erdman et Armin Sark à récupérer leur alliance après l'incendie de leur maison.
Ils ont démoli le mur, l'ont enlevé et nous ont aidés à ouvrir l'espace pour trouver les alliances. Nous avons cherché dans les cendres et les décombres et en 30 ou 40 minutes, nous avons retrouvé nos deux bagues.
Les agences gouvernementales, les entreprises privées et les organisations à but non lucratif s'efforcent d'aider les sinistrés qui n'ont pas de vêtements, de rechange ou de documents importants. Le refuge pour animaux Pasadena Humane aide plus de 350 animaux abandonnés, explique Kevin McManus, porte-parole de l'association.
Pour que tout le monde soit en sécurité, amenez-nous vos animaux. Nous nous occuperons d'eux comme s'ils étaient les nôtres, comme on voudrait qu'ils le soient et vous pourrez ainsi prendre soin de vous. Vous n'aurez pas à vous soucier de vos animaux en cette période incroyablement éprouvante.
Richie Ramos, un habitant de Los Feliz, a fait don de fournitures pour animaux de compagnie.
Cela fait du bien d'être ici, cela fait du bien de voir tout le monde ici être si gentil, de faire des dons et d'être généreux et bien sûr de se soutenir et de s'encourager les uns les autres tant que nous le pouvons.
Les centres d'accueil d'urgence et les casernes de pompiers sont débordés. Les autorités demandent donc aux gens d'arrêter de déposer de la nourriture et des denrées périssables et d'envisager de faire des dons en argent à la place.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Mnezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Rendez-vous sur notre site internet voafri.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée.